Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Madame Diane Kasongo, elle est journaliste et directrice des informations à la radio-télévision Nyota en étant de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Bonjour Madame Diane Kasongo.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Monsieur Cyril Kileba, il est journaliste et éditeur du journal Des Postes paraissant à Kinshasa. Bonjour Monsieur Cyril Kileba.
Bonjour Guy Maté, bonjour aux auditeurs de Radio Capi.
Et en ligne depuis Nairobi, capitale du Kenya, Ruben Lukumbuka, journaliste à la Radio France Internationale Kiswahili à Nairobi. Bonjour Ruben Lukumbuka.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue de l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Diane Kasongo, journaliste et directrice des informations à la radio-télévision Nyota, émettant de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Cyril Kileba, journaliste et il est éditeur du journal Des Postes paraissant à Kinshasa. Et en ligne depuis Nairobi, capitale du Kenya, Ruben Lukumbuka, journaliste à la radio France Internationale Kiswahili à Nairobi. On va commencer par un commentaire sur le match qui a opposé la France au Maroc mercredi dernier au Mondial de Qatar. Un match qui s'est soldé par la victoire de l'équipe française. Le score final était de 2-0. Madame Diane Kasongo, comment vous analysez cette défaite du Maroc alors que sur le plan technique, cette équipe a semblé dominer l'équipe française?
Bon, moi je pense que la France s'est seulement servie de son statut de favori pour battre le Maroc, hein, visiblement satisfait de son parcours, hein, parce que vous avez tous suivi ce match, le Maroc s'est bien débrouillé. Le Maroc jouait, mais il n'a pas su gagner désormais. Les Lions d'Atlas sont devenus le premier Africain à disputer une demi-finale de la Coupe du Monde. Comme tout Africain, je voulais aussi que le Maroc l'emporte sur la France, mais il va se contenter peut-être d'une troisième place avec ce match de classement qu'il joue ce samedi face à la Croatie. En ce qui concerne les représentants du continent africain, ils ont tous gagné, moi je le pense, voilà un match à cette Coupe du Monde Qatar 2022. Le Maroc et le Sénégal ont franchi l'étape de la phase de groupe. Seul le Maroc est resté dans la compétition jusqu'à devenir ce que j'ai dit si haut, premier Africain à jouer la demi-finale de la compétition du Maroc.
Merci Cyril Kileba. Le Maroc a surpris tout le monde. Il a défié des équipes qui étaient considérées jusque-là comme des favoris à ces mondiales. On peut citer entre autres le Portugal et l'Espagne. Et mercredi dernier, il était sur le point de gagner la France. À quoi vous pouvez attribuer l'exploit des Lions de l'Atlas, Monsieur Cyril Kileba?
À une conviction, à la conviction que les joueurs eux-mêmes ont affichée. Ils étaient déterminés, surtout aussi à la très grande volonté et à la très grande conviction de leur leader. Ici, j'appelle le leader le coach Walid Regragui. Je crois que le coach marocain a su communiquer à ses joueurs la détermination que lui-même a en lui, en leur expliquant que, de toutes les façons, plusieurs Marocains évoluent dans les mêmes championnats que tous les autres grands joueurs auxquels ils sont confrontés. Donc, je crois que cela a beaucoup joué dans la détermination du 11 marocain.
Merci. Monsieur Ruben Lukumbuka, au-delà de la performance de l'équipe marocaine, comme avait commencé, n'est-ce pas, à les relever Madame Diane Kassongo, il y a la prestation des équipes africaines à cette compétition. Et comment vous appréciez la manière dont les équipes africaines se sont comportées pendant cette Coupe du Monde?
Oui, Guy Maté, d'abord, c'était un match que j'ai trouvé difficile pour les deux équipes. Tout d'abord parce que les deux équipes se disputaient au moins à entrer et pénétrer au final. Et déjà, c'est la première fois à une équipe comme celle de France, qu'on dit le bleu, d'affronter une équipe que je dirais a fait des exploits par rapport à d'autres équipes africaines, sans les citer. Bon, du moins, c'est quand même à féliciter, hein. D'autant plus qu'il n'était pas facile pour les Marocains de foncer jusqu'au bout. Et du côté français, vous voyez, la plupart de ces joueurs sont beaucoup plus expérimentés. C'est des joueurs qui sont dans des grandes formations européennes, des équipes qui participent dans les ligues européennes. Et c'est là que je me suis dit, malgré cette performance sur le plan technique, scientifique et tactique, les derniers sifflets lors du match final entre la France et l'Argentine, déterminera qui sera le meilleur. Mais de toutes les façons, je voudrais encore une fois féliciter les Marocains pour avoir montré à la face du monde que les Africains ont quand même une grande performance dans le foot. Même si mon pays, le grand RDC, n'a pas été représenté.
Et à votre avis, quelles leçons les Africains peuvent tirer de cette compétition?
Écoute, c'est d'abord la préparation et aussi l'organisation interne de nos équipes. Ceci dit que nos gouvernements africains doivent quand même prendre au sérieux le sport, comme on l'a dit, parce que je trouve que parmi le vrai divertissement qu'on peut retrouver pour le moment dans le monde, c'est le sport, donc le foot. Et du coup, il faut quand même une certaine organisation et aussi il faut prendre les choses au sérieux. Voilà un peu ce que je peux dire.
Madame Diane Kassongo, les leçons que les Africains peuvent tirer de cette compétition.
Voilà les leçons que les Africains peuvent tirer de cette compétition. C'est qu'il faut avoir confiance en nous-mêmes. Hein. Il faut vraiment avoir confiance en nous-mêmes. Si le Maroc a pu atteindre la demi-finale de cette compétition, de cette Coupe du Monde, donc c'est plus facile que les autres pays africains le fassent aussi. Il suffit seulement de mettre beaucoup de sérieux, de beaucoup travailler, surtout de croire en soi-même. C'est vrai, ça il faut le dire. Il faut vraiment croire en nos équipes africaines.
Monsieur Cyril Kileba, pour vous, les leçons que les Africains doivent tirer de cette compétition?
La première leçon, c'est que il faut y mettre de la volonté, parce qu'on croit souvent à la chance. Non, la chance seule ne suffit pas. Il faut y mettre de la volonté. La deuxième leçon, c'est qu'il faut y mettre les moyens. Le Maroc y a mis les moyens depuis les éliminatoires. Souvenez-vous que pour venir jouer le match éliminatoire à Kinshasa, le Maroc a mis une dizaine d'avions pour transporter des supporters. Ça signifie qu'ils ont mis les moyens et la seule volonté ne suffit pas. Il ne faut pas que on se retrouve devant des sélections qui, jusqu'à la veille de la qualification ou jusqu'à la veille des matchs, ne savent même pas si les primes seront payées, ne savent pas si la sélection nationale va se déplacer confortablement. Donc voilà, je crois que la volonté et les moyens.
Merci. On prend une petite pause avec Roger Mila de PP Calais et on revient tout de suite après.
Thank you. Kouté, Kono Ngwele, Bakal, Bashir, Ojemina, Ojemina, Maka, 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 Maka.
Roger Mila, une chanson composée par Pepe Kale de l'Empire Bakuba en 1990. À travers cette chanson, il a rendu hommage aux Lions Indomptables du Cameroun après les exploits qu'ils avaient réalisés à la Coupe du Monde organisée cette même année. On revient à l'actualité de cette semaine. 130 morts au bilan encore provisoire de la pluie qui s'est abattue mardi dernier dès 1h du matin sur la ville de Kinshasa. Des morts causées en majorité par des écroulements de murs, des éboulements de terre et des inondations et quelques-unes par des électrocutions. On a compté aussi des routes coupées ou inondées. Monsieur Cyril Kileba, vous êtes journaliste et éditeur du journal Des Postes, paraissant en Kinshasa. Dans l'édition de cette semaine de votre journal Des Postes, vous avez titré à sa une « Les morts de Kinshasa après la pluie », un titre évocateur. Pourquoi ce titre, monsieur Cyril Kileba?
Oui, mais Kinshasa a connu en début de semaine plus d'une centaine de morts. On ne peut pas passer sous silence, tant de morts dans une ville après une pluie. Et on ne peut pas ne pas voir ces morts-là au risque de ne rien faire pour les temps qui viennent. Et c'est ça que nous avons mis à la une les morts de Kinshasa pour attirer l'attention aussi bien de la population que des autorités sur les responsabilités des uns et des autres quant à ces morts que nous avons encore sous les bras puisqu'ils ne sont pas encore enterrés.
On a l'impression que la ville n'est pas gérée, les rivières ne sont pas curées, les caniveaux sont bouchés. N'est-ce pas qu'il aurait été possible, M. Kileba, de prévenir cette situation s'il y avait une véritable politique d'assainissement de la ville de Kinshasa?
C'est exactement ce que nous disons dans notre papier. C'est qu'on a tendance à vouloir rejeter la responsabilité sur la nature. On dit que c'est une catastrophe naturelle. Oui, mais les rivières qui ne sont pas curées, ça c'est pas naturel. Les égouts qui sont bouchés, ce n'est pas naturel. Les avenues qui se terminent en cul-de-sac, c'est pas naturel. Donc, il y a une responsabilité humaine et donc il y a une responsabilité de gouvernance. Il y a une responsabilité de gestion et cette responsabilité-là doit non seulement être épinglée, mais elle doit aussi être sanctionnée. Mais malheureusement, il n'y a aucune volonté de sanctionner la responsabilité humaine qui se dégage de cette situation pour l'instant.
Merci, Madame Diane Kasongo. Vous êtes journaliste et directrice des informations à la radio-télévision Nyota émettant de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il existerait un bureau d'études d'aménagement de l'urbanisme chargé notamment de faire des propositions au gouvernement pour anticiper ce genre de catastrophes. On se rappelle qu'en mai 2021, lors de l'éruption volcanique de Nyiragongo, comment l'observatoire volcanique de Goma n'a pas pu voir venir, n'est-ce pas, cette éruption par manque de moyens. Et c'est là que nous devons nous questionner sur, n'est-ce pas, l'importance que nous accordons à nos services techniques, Madame Diana Kasongo.
Oui, Guy Maté, je pense que ce que Kinshasa a vécu la journée du mercredi, là, c'est grave. Je vais d'abord baisser la voix parce que, on le dit, ce qui est arrivé, c'est une catastrophe naturelle, un accident. Ça pouvait être évité. L'État pouvait éviter cette situation. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Mieux pour prévenir, c'est guérir. Quand, par exemple, vous lotissez, est-ce que l'État n'a pas su voir qu'il y a des enfants? Aujourd'hui, on demande de détruire des maisons qui sont dans les zones à édificandi. On va les détruire. Mais ces terrains ont été distribués sans étude au préalable des milieux. et puis vous exposez le paisible citoyen au danger. Dans ce cas sous examen, ce sont les services des affaires foncières, monsieur Guimaté. Le ministère de l'aménagement du territoire, ce sont ces gens qui sont responsables. Comment mon collègue de l'époque a du mal à dire tout ça? L'État est responsable de cette situation, mais il n'est pas l'unique responsable, il y a aussi la population chinoise. Les responsabilités sont vraiment partagées, Guimaté.
Merci, Monsieur Ribien Lukumbuka, journaliste à la Radio France Internationale qui soit liée à Nairobi. On rappelle que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Hein. Il y a quelques années, la même situation s'était produite toujours dans la ville de Kinshasa. L'autorité s'était précipitée à prendre en charge les obsèques. Certaines mesures avaient été prises, mais qui n'avaient jamais été appliquées. Rien de concret n'avait été fait. Et aujourd'hui, on déplore une situation similaire. Et on a l'impression que dans ces pays, on ne tire pas les leçons du passé, M. Ribien Lukumbuka.
Effectivement, c'est ce que je suis en train de me dire, parce que d'abord, je déplore tous ces morts que nous continuons à enregistrer dans notre pays, à considérer les nombres de personnes qui sont en train d'être décimées des suites de l'insécurité à l'Est, et d'ajouter encore une fois ces drames ici de mardi dernier à Kinshasa. Donc, vous voyez que le problème aussi d'accroissement de la ville qui est trop rapide à Kinshasa, en fait c'est quelque chose que je peux dire que nous devons plutôt appeler la conscience d'un chacun, d'autant plus que vous venez de suivre d'ailleurs ma consoeur de l'autre côté à Lubumbashi, elle vient d'évoquer un mot très, je dirais, très pressant, donc il faudrait que la responsabilité soit donc partagée. Et nous devons appeler à la conscience de tout le monde, à voir comment nos services techniques sont en train d'être gérés. Hein. Il se pourrait que peut-être, je ne sais pas, est-ce que ce sont des alertes qu'ils donnent et qui ne sont pas prises en considération. L'OVG à Goma, par exemple, pour l'éruption volcanique, vous dira que non, voilà, il n'y a pas de financement, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de ceci. Nous devons de toutes les façons nous donner à appeler le gouvernement, disons, à prendre ses responsabilités d'une manière ou d'une autre. Et par exemple, vous voyez, il y a d'autres villes en RDC où on constate des habitations sauvages, par exemple à Goma, des gens qui s'installent là où l'expérience montre que les risques volcaniques est grand. Et à Bukavu, par exemple, les maisons sont parfois construites trop près des rivières. Ça se voit aussi dans la région, je me souviens à Bujumbura, par exemple, quand les eaux du lac Tanganyika ont monté. Il y a 2 ans, des quartiers entiers ont été inondés, mais là, il n'y avait pas de morts, car la montée des eaux était lente. Alors, ce que je puis dire, c'est le cas, par exemple, des sujets ici qui a été évoqué ici à la RFI, qui soit libre. Vous trouverez que cela a retenu l'attention de nos auditeurs. C'est peut-être une similitude d'approche éditoriale, être près des auditeurs. Donc, vous trouverez que la plupart de ces auditeurs, ils demandent que le gouvernement prenne ses responsabilités, que nos gouvernements prennent leurs responsabilités. Il ne suffit pas de dire seulement, voilà, ça c'est la conséquence du changement climatique, puis vous restez là. Non, plutôt prendre maintenant des décisions, des plans, des stratégies pour essayer d'éviter que de telles catastrophes, bien sûr naturelles, puissent encore une fois revenir dans nos villes. Voilà ce que je peux dire à ce niveau.
Que le gouvernement prenne ses responsabilités. Merci beaucoup. Monsieur Cyril Kileba, dans les enquêtes menées par la rédaction de votre journal des Postes, avez-vous tenté de comprendre ce qu'est devenu l'opération Kinbopeto qui avait été lancée avec grande médiatisation il y a quelques mois ici dans la ville de Kinshasa par le gouverneur Gentil Ngobila?
Oui, je crois que enquête ou pas enquête, les citoyens peuvent par eux-mêmes constater ce qu'est devenu Kinbopeto. Un simple slogan. Kinbopeto se limite au balayage de quelques avenues dans la ville. Les grandes avenues, les principales avenues. Le boulevard Lumumba, le boulevard du 30 juin, et l'avenue Bypass, et quelques grandes avenues. Ça s'arrête là. Il n'y a, dans cette opération-là, il n'y a rien pour désinsectiser la ville, désinfecter la ville, qui est pleine de moustiques, il n'y a rien pour mettre de l'ordre dans les constructions anarchiques, il n'y a rien pour curer les rivières et il n'y a rien pour déboucher les égouts et les canicaux. Donc, Kinbopeto, ça a été le slogan qui a porté M. Gentil Kabila au pouvoir et ça s'est arrêté là. Mais dans les faits, les Kinois vivent dans la crasse, ils vivent dans l'insalubrité. Donc, on ne peut pas se prévaloir d'un quelconque Kinbopeto pour dire oui, Kinshasa va devenir propre, va devenir salubre. Non, rien de tout cela. Je voulais revenir un peu, Guimade, si vous permettez, je voulais revenir un peu sur la notion de responsabilité que l'on évoque. Quand on dit la responsabilité est partagée pour ce qui concerne les morts de Kinshasa, je crois qu'il y a... Nous devons éviter d'emprunter des lieux communs, d'emprunter des stéréotypes qui noient les poissons dans l'eau. Tenez, quand on dit la responsabilité est partagée, elle est partagée entre qui et qui? Qui reçoit le budget pour la salubrité de la ville? Est-ce que tout le monde travaille à l'office de voirie et drainage? Est-ce que tout le monde dirige l'office de voirie et drainage? Pour qu'on dise que la responsabilité est partagée. La population ne peut pas partager la responsabilité avec ceux qui ont reçu et le mandat et les moyens de poser des actes et vous allez dire on partage la responsabilité. Non. Quand vous allez plus loin, vous allez voir que la population paye pour la salubrité. Je donne un exemple. Chaque fois que nous achetons notre carburant, allez voir la structure du prix. Il y a une quotité pour la salubrité. Chaque fois que nous voyageons, quand nous payons le fameux GoPass, là-dedans, il y a une quotité pour... Qui sont ceux qui ont compétence pour gérer cette quotité-là?
Et donc, il ne se pose pas un problème des moyens financiers.
C'est ça, j'ai dit. Qu'on ne nous distrait pas en disant la responsabilité est partagée, comme ça, ceux qui vivent des moyens publics, de l'argent du contribuable, ceux-là, ils vont être tranquilles et les autres vont porter la responsabilité. La responsabilité partagée, ça c'est de l'irresponsabilité. Il y a des gens qui sont responsables. D'ailleurs, on a vu, après les pluies, la réunion du gouvernement a décidé que la ville doit faire ceci, doit faire cela. Ça signifie que le gouvernement a reconnu la responsabilité, mais il n'a pas désigné les responsables, il n'a pas désigné les coupables.
Merci.
Cette façon-là de faire les choses, c'est de l'irresponsabilité.
Merci. Merci. Madame Diane Kasongo, est-ce qu'on ne risque pas de revivre la même situation d'ici peu, parce qu'après cette pluie, on ne voit rien se faire dans le sens, n'est-ce pas, d'éviter une autre catastrophe si une autre pluie s'abattait. Aujourd'hui, c'est la ville de Kinshasa.
Malheureusement, Guimaté, c'est la crainte, parce que, je vais revenir, il y a peu, nous avions vu, moi, personnellement, j'ai suivi à la télévision le ministre Guy Saro, qui était sur le terrain pour lancer les travaux d'assainissement dans les caniveaux. Mais qu'est-ce qui a été concrètement fait? Qu'est-ce qui a été concrètement fait? Il y a quelques années, en République démocratique du Congo, on a refusé la vente des sachets plastiques. Qu'est-ce qui a été fait? Tout ce qui bouche nos caniveaux, c'est du plastique. C'est le sachet plastique, ce sont des bouteilles plastiques. On ne sait pas les gérer. Il faut commencer par là. Il faut d'abord, j'ai commencé par gérer cette histoire. La République démocratique du Congo, c'est une végétation de sachets plastiques. Ça, vous le savez. Vous le savez. Le drame remet aussi en question la qualité des travaux de la voirie effectuée par l'OVD. Il y a aussi l'Office des routes. Est-ce que ces sociétés ont pensé à canaliser les eaux de pluie? C'est vrai, on parlait tantôt des responsabilités. C'est vrai. C'est nous les hommes qui habitons nos villes. c'est nous qui habitons nos villes. Par moment, nous-mêmes, la population, nous sommes à la base de notre propre malheur. C'est vrai que l'État reçoit la taxe sur les immondices, par exemple, sur le plastique quand nous exportons, surtout ici vers le sud de la République démocratique du Congo, tous nos boissons gazeuses qui viennent toutes de la Zambie, quand nous les prenons, pourquoi en Zambie on ne voit pas ces bouteilles errer dans les rivières? Pourquoi en Zambie on ne voit pas ces bouteilles dans les caniveaux? C'est seulement ici chez nous. Il faut aussi que la population comprenne qu'il y va de sa vie, par exemple. Quand tu prends ta boisson, tu finis de la boire, tu mets dans la poubelle. Tu mets dans une poubelle, on va aller peut-être incinérer ou jeter je ne sais où. Mais il ne faut pas les jeter comme ça sur la rue, dans les caniveaux. Et c'est vrai, si tout cela n'est pas revu, on risque d'enregistrer encore des drames qu'on a vécu cette semaine.
Merci.
La même chose se passe aussi ici à Lubumbashi. Il faut voir les rivières de Lubumbashi. Il faut vraiment le voir, Guimaté. C'est plein d'ordures, c'est plein. Les ordures, ce n'est pas vraiment l'État congolais qui vient jeter les ordures dans les caniveaux. C'est pas l'État. Prenons d'abord, nous les mamans, nos ménages, nos déchets ménagers. Où est-ce que nous les mettons? C'est sur la rue. Nous les mettons sur la rue. On peut par exemple créer à la maison déjà un coin où brûler nos ordures ou... Par exemple, séparer les plastiques, les verres et autre chose. On peut le faire déjà à partir de nos ménages, avant de laisser aussi à l'État congolais de faire sa tâche. Il faut que ça commence aussi par chez nous.
Merci, M. Rubin Lumbuka. Qu'est-ce doit faire exactement le gouvernement pour le moment? Parce que tout ce qui est fait maintenant, c'est des choses déjà vécues. Et vous apprenez qu'il y a une catastrophe s'est produite. Vous apprenez qu'il y a eu des victimes, l'autorité se manifeste, présente, n'est-ce pas, les messages de compassion, les messages de condoléances, décide de prendre les obsèques en charge et prend certaines mesures qui ne sont jamais appliquées. Mais après, la même autorité se tourne vers autre chose au lieu de se pencher sur l'essentiel. Qu'est-ce que actuellement le gouvernement doit faire? C'est quoi la leçon que le gouvernement doit tirer actuellement pour que l'on puisse prévenir ces genres de catastrophes et qui ne se produisent pas seulement à Kinshasa, mais dans beaucoup de contrées à travers la République démocratique du Congo?
Très bien, Guy Maté, vous vous souviendrez qu'avant de finir mon dernier mot, là, j'ai pu insister sur l'appel à la conscience d'un chacun. Il y a les problèmes d'assainissement de la ville qui laissent à désirer. Les caniveaux sont souvent bouchés et les habitations sont anarchiques, tel que je l'ai dit. Il y a des gens qui s'installent n'importe où et que le développement de la capitale qui semble ne pas être bien organisé. Alors, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Nous avons quand même des techniciens. Nous avons quand même des services techniques dans la ville. Il y a l'OVD, c'est pas au Congo comment est-ce qu'on les appelle. Ici, il y a quand même des organisations ou des services, voilà, techniques qui ont quand même des experts et ils étudient tout d'abord comment assainir une ville, comment gérer ses poubelles, comment faire le recyclage de ses déchets, comment, mener des sensibilisations à la population, parce que comme venait de le dire madame la consoeur tantôt, comment est-ce que quelqu'un qui est dans la ville, il trouve la ville est propre, il prend sa bouteille là, c'est pas moi, de soda en plastique, après avoir bu, et il jette partout où il veut. Mais ce que j'ai trouvé ici dans l'est de l'Afrique, c'est là vraiment on trouve qu'il y a une certaine rigueur dans la gestion de ces poubelles. Si jamais on arrive à gérer ces genres de choses chez nous, je ne pense pas qu'on peut juste avoir des problèmes d'assainissement dans la ville, des caniveaux bouchés, jamais. Et de toutes les façons, ce qui peut être fait à ce niveau, c'est que nos gouvernements doivent appeler ces experts, avoir leur expertise de la ville, et savoir comment gérer aussi les poubelles dans nos villes. Voilà un peu ce qui se passe. Même ici, je vois, il y a des endroits où vous trouverez dans la ville, il y a chaque partie, chaque endroit, on met des poubelles, même dans des bus, des transports communs.
Même dans des voitures, vous trouverez, il y a des gens qui marchent avec leur propre poubelle dans le véhicule. Ils arrivent quelque part, ils jettent ces déchets. Si jamais chacun, dans sa conscience, il peut arriver à contribuer à la propreté, à l'assainissement de la ville, je pense qu'on ne peut jamais arriver à avoir des canaux ou des caniveaux bouchés comme on les témoigne.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale, cette actualité et cette semaine triste, dans ce sens que on a annoncé, n'est-ce pas, la mort de l'une des icônes, de l'une des légendes de la musique congolaise moderne, Elisabeth Chalamwana, qui nous a quittés samedi 10 décembre dernier à Kinshasa. Pour lui rendre hommage, on va écouter l'une de ses chansons, Karibu Yangu, et on revient après. Dans cette émission, regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur la prestation des équipes africaines au Mondial 2022 qui se joue au Qatar. Nous avons également analysé la question des inondations dans la ville de Kinshasa. Participe à cette émission, Madame Diane Kasongo, elle est journaliste et directrice des informations à la radio-télévision Nyota émettant de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Monsieur Cyril Kileba, journaliste, il est éditeur du journal Des Postes paraissant à Kinshasa et en ligne depuis Nairobi, capitale du Kenya, Ruben Lukumbuka, journaliste à la radio France Internationale Kiswahili à Nairobi. Un autre aspect d'actualité cette semaine, c'est les tensions qu'on observe depuis un certain moment au Katanga entre les communautés kassaïennes et katangaises. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, a demandé aux communautés katangaises et kassaïennes de s'investir afin de vivre dans la paix et la cohabitation pacifique. Cette initiative de Jacques Kiabula fait suite à la montée ces dernières semaines dans les réseaux sociaux à Lubumbashi des discours de haine tribale et d'appel à la violence entre ces deux communautés. Et très souvent, ce sont les réseaux sociaux qui sont utilisés pour véhiculer ce genre de messages. La mort du prophète Jérémie Doxa Lengue le 27 novembre dernier à Lubumbashi, dont les auteurs seraient des taximens moto originaires de la région du Kasaï, a contribué à exacerber cette tension. À cela s'ajoutent les récents affrontements entre les jeunes de l'IDPS et ceux de l'UNAFEC qui ont causé la mort de deux personnes et des blessés. Ces deux événements auxquels se greffent aussi les dernières nominations dans la territoriale ont dégradé la situation, certains estimant qu'une communauté a été plus privilégiée que l'autre. Madame Diane Kasongo, la rédaction de la télévision Nyota, donc votre télévision, a opté pour cette question des tensions entre les deux communautés. Et qu'est-ce qui a motivé ces choix, Madame Diane Kasongo?
Voilà, le choix a été motivé par... Vous savez, quand nous vivons dans un coin où il y a des tensions, il faut toujours essayer de recadrer les choses et d'essayer d'en parler. C'est vrai, ces tensions, ces discours de haine tribale, d'appel à la violence et autres messages, je vous précise, Timothée, que ça continue jusqu'à présent à circuler sur les réseaux sociaux. Et ceci, vous l'avez dit, illustre les tensions qui s'aggravent en ce moment dans les relations entre les Katangais et les Kasaïens. C'est devenu tellement compliqué parce que la crainte, c'est que ces violences sont décriées par plusieurs personnes et ça risque de nous pousser à vivre des événements que nous avons vécus dans le temps. Vous l'avez bien souligné, Guy Mathieu, ces violences sont décriées par plusieurs, c'est notamment le gouverneur de province, mais il y a aussi le caucus des députés nationaux élus de Lubumbashi et des jeunes de la province du Katanga, il y a les chefs coutumiers aussi qui déplorent cette situation. Ce qui est à la base de tout ça, c'est aussi des provocations, Guimaté. Il y a des provocations qui poussent toujours à la haine ou bien à des mésententes entre les deux communautés. Vous étiez en train d'évoquer il y a peu l'assassinat de Doxa, du jeune prophète Doxa. Je peux vous donner un exemple. Il y a eu des exploitants des taxis moto qui sont même arrivés à falsifier l'identité du défunt en disant qu'il était de l'espace Kasaï et que les Katangais ne pouvaient pas se plaindre de cet aspect de choses parce que eux, ils ont tué quand même leur frère. Vous voyez un peu, Guy Mathieu. Donc la crainte, c'est qu'il y ait risque de la survenue des violences futures, notamment lors des prochaines élections. D'ailleurs, les confrontations ont déjà commencé, vous l'avez dit, entre les jeunes de l'UDPS et de l'UNASEC. On a assisté à des affrontements entre ces deux groupes dans les coins chauds de la ville de Lubumbashi, à la Kenya, à Katuba, au centre-ville. Et pendant deux jours, les activités étaient presque paralysées dans ces coins.
Madame Diane Kasongo, en plus de cet appel du gouverneur Jacques Tiaboula, vous avez aussi rappelé, n'est-ce pas, les démarches menées par la société civile et certains députés. Il y a également l'appel du Monseigneur Fulgence. On se rappelle aussi qu'en avril dernier, une table ronde avait été organisée entre les communautés du Grand Katanga et celle de l'espace Kasaï. Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'en dépit de toutes ces initiatives, la tension ne baisse toujours pas? Vous avez évoqué les provocations. Mais au-delà des provocations, il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent expliquer la persistance de toutes ces tensions?
En fait, ce sont des tensions, Guimassé, qui sont là. C'est des conflits qui datent des années. Mais il y a eu des éléments déclencheurs. Vous l'avez souligné ici. Il y a eu les éléments déclencheurs qui sont les nominations dans la petite territoriale. Les voix se sont levées. Quelques heures après, on enregistra plus de réactions les uns qui ont désapprouvé ces nominations. Ils disent ne pas se retrouver dans cette mise en place. Je peux citer ici les partisans de l'UNASEC qui sont de l'Union Sacrée, mais ils ne se sont pas retrouvés dans cette nouvelle mise en place. Il y a eu les associations socioculturelles. Donc, dans ces nominations, on n'a pas tenu compte de plusieurs aspects dont les plaignants ont évoqué. Il a suffi de ces deux effets déclencheurs, de ces trois effets d'ailleurs, vous avez évoqué aussi les affrontements entre les jeunes de l'UDPS et de l'UNASEC. Ce sont des effets déclencheurs. Moi, je pense que il faut qu'il y ait cette tolérance. Il n'y a pas de tolérance, surtout entre les jeunes. Moi, je pense qu'il y a un manque d'encadrement des jeunes du parti politique. Ici, il n'en dit rien pour qu'ils s'enflamment.
Merci. Monsieur Cyril Kileba, au début de la décennie 90, une telle situation avait été observée dans la même province entre certains leaders alliés au maréchal Mobutu et des personnes considérées comme faisant partie, n'est-ce pas, de l'opposition, tout simplement parce que ces personnes appartenaient à la même tribu que les chefs de file de l'opposition à l'époque. Aujourd'hui, c'est plutôt les partis politiques UDPS et UNAFEC qui sont tous membres d'une même famille politique, Union Sacrée de la Nation, qui s'affrontent. Comment peut-on expliquer cela?
Oui, c'est bien que vous posiez cette question, parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, d'abord, certains ont tendance à faire croire que c'est des faits virtuels. Non, même si ces actes d'intolérance ou ces actes de tribalisme sont portés par les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ne servent que des supports. Ce n'est pas des faits virtuels. Ce sont des faits concrets qui se passent entre des personnes concrètes, des êtres de chair et de sang comme vous et moi, et qui sont transmis, malheureusement, par les réseaux sociaux. Alors, en 90, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, les faits ont existé concrètement entre des personnes supposées katangaises et des personnes supposées katayennes, ou plutôt des personnes katangaises et des katayens. Ce sont des faits qui prennent racine dans le comportement, dans le civisme de nos concitoyens. Et ce sont des faits tout à fait déplorables que personne ne peut encourager. Alors, moi, je crois humblement que à l'origine de ces choses, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le comportement. Aussi bien des hommes politiques que des partisans des partis politiques. Qu'ils soient partisans de l'UDPS, qu'ils soient leaders de l'UDPS, qu'ils soient partisans de l'UNAFEC, qu'ils soient leaders de l'UNAFEC. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Alors que le vivre ensemble devient de plus en plus difficile entre les individus.
Merci. Merci Ruben Lukumbuka. Si à l'époque du maréchal Mobutu, l'on avait accusé certains leaders politiques de tirer les ficelles, peut-on aujourd'hui parler aussi de la manipulation politique?
Bien sûr, d'une manière ou d'une autre, on peut parler de la manipulation politique, d'autant plus que vous verrez que ces esprits souvent se réveillent, disons, à l'aube ou à la veille des préparatifs, ou disons, à la préparation des élections dans notre pays. Je suis en train de réfléchir pourquoi ce genre de conflits interethniques ou peuvent perdurer entre les communautés. Pourtant, je dis bien pourtant, la plupart, je dis bien la majorité même, des gens qui attisent le feu, vous verrez tous les dimanches, ils remplissent des églises où on vous prêche l'amour du prochain, mais pour des intérêts mesquins, mélangés à des jeux politiciens, qui font perdre cette confiance parmi les gens. Donc en fait, la seule solution ici, ce que je peux proposer, pour arriver à la cohabitation pacifique entre les communautés, c'est, je dirais, d'appeler à la conscience d'un chacun, et surtout aux promoteurs ou à ces gens, à ces auteurs même qu'on reconnaît ici, que voilà, c'est à cause de ceci qu'il y a eu ça, vous voyez, même Madame Diane venait de le dire, qu'il y a eu un élément ou des éléments déclencheurs. Donc à partir du moment où on connaît l'origine des tensions entre les communautés kassayennes et katangaises dans les Haut-Katanga, je pense qu'à partir de là, on peut avoir la solution si jamais on applique toutes les décisions, les propositions données dans des assises. Vous venez d'évoquer là, je dirais, la table ronde qui est, où ce n'est pas peut-être la première table ronde qui s'était faite là, au niveau du Katanga. Donc, la plupart des choses qui ont été prises comme décision, si on les met en pratique, je pense qu'on peut arriver à la cohabitation pacifique entre ces communautés, à mon avis. Voilà, c'est ça.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Bonheur de Lokwakanza et on revient juste après.
rabia, pe va. Akende seboyo azalaki na posa ya baninga asikisa yo anana seboyo azalaki na posa ya baninga basolola mawele kie amipwaki yo kolo yanda koye konde kete awa ele kakie apumbwe o pandi kuba zangie seboye o des fois le bonheur il suffit d'une phrase d'un mot oui le bonheur juste un sourire un regard des fois le bonheur il suffit d'une phrase d'un mot oui le bonheur juste un sourire un regard anana seboye o azalaki na posa ya baninga basolisa ye akende seboye o azalaki na posa ya koseka abaninga mawele kie apumbwe likolo ya ndako ekondeke.
Bonheur avec Pascal Lokokanza, un chanteur multi-instrumentaliste, parolier, compositeur, arrangeur et producteur congolais, né le 21 avril 1958 à Bukavu, en RDC. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Diane Kasongo, elle est journaliste et directrice des informations à la radio-télévision Nyota émettant de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Monsieur Cyril Kileba, journaliste et éditeur du journal Des Postes, paraissant à Kinshasa, et en ligne depuis Nairobi, capitale du Kenya. Ruben Lukumbuka, journaliste de la radio France Internationale, Kiswahili à Nairobi. Les sommets États-Unis-Afrique a aussi défrayé la chronique cette semaine en RDC. Le président américain s'est adressé à ses pairs à l'issue du forum pour les affaires en Afrique qui a occupé le deuxième jour de la réunion pour se féliciter des résultats concrets. 15 minutes de discours pour présenter 15 milliards de dollars d'accords et de contrats signés en une matinée dans des secteurs aussi variés que la santé, l'agriculture, les transports ou les nouvelles technologies. Joe Biden a affirmé que ce sont des investissements à long terme qui vont bénéficier vraiment aux gens, créer de nouveaux emplois bien payés, y compris aux États-Unis, et élargir les opportunités de tous nos pays pour les années à venir. Pour sa part, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken espère que le Rwanda va user de son influence afin d'encourager le M23 à se retirer du territoire congolais. Il s'est ainsi exprimé jeudi 15 décembre à la conférence de presse qui a marqué la clôture du sommet États-Unis-Afrique à Washington. Et la position américaine est claire, les États-Unis restent attachés aux résolutions du processus de Nairobi et de la feuille de route du mini-sommet de Luanda. Il faut donc que les M23 se retirent des zones occupées, ce qui va permettre une désescalade de la situation. Et de ce côté-là, nos yeux sont tournés vers le Rwanda pour qu'il use de son influence afin d'encourager cela, a confié Anthony Blinken. Ruben Lukumbuka, vous avez à RFI choisi de mettre un accent sur ce sommet États-Unis-Afrique. Et pourquoi ce choix?
D'accord. Pourquoi ce choix, Guy Maté? Tout d'abord, avoir les sujets qui ont été développés sur le plan international. Vous avez vu, vous avez compris que c'était l'occasion aux États-Unis d'Amérique d'annoncer des nouveaux investissements, de parler aussi de la sécurité alimentaire, du changement climatique, mais aussi de la démocratie et de la bonne gouvernance. Mais surtout, et surtout pour la RDC, vous avez vu combien nos auditeurs ici, des RFI Kiswahili, ont réagi dans l'émission interactive qui est diffusée chaque jour, qu'on appelle Habari Rafiki. La plupart de nos auditeurs qui nous appellent de Goma, de la RDC, disons, ils ont dit que l'annonce faite par Anthony Blinken, secrétaire d'État américain qui a dit que les États-Unis espèrent que le Rwanda va user de son influence afin d'encourager le M23 à se retirer de la RDC. Avec cette annonce seulement, donc nous avons vu que la plupart de nos auditeurs qui ont réagi, ils ont dit, bon d'accord, mais de toutes les façons à ce niveau, nous sommes encore sceptiques. La plupart disent que si réellement cette annonce ou alors cette position des États-Unis d'Amérique, si le Rwanda influencera les M23 à se retirer de la RDC, en tout cas ce sera une feuille de route ou je dirais la voie même vers la paix. Et on attend voir est-ce que réellement cela sera fait, est-ce que ce sera automatique, d'autant plus que même le Rwanda lui-même continue à nier être aux côtés de cette rébellion des M23. Mais on attend. Voilà pourquoi on a pris comme sujet principal les sommets États-Unis-Afrique.
Voilà. Dans vos analyses, au-delà, n'est-ce pas, des questions sécuritaires en RDC, avez-vous compris quels sont les enjeux de ces sommets pour les pays africains?
Oui, tout d'abord, la bonne gouvernance. Avec ce système de putsch qu'on a enregistré dans les pays africains, nous pouvons citer par exemple en Guinée, au Mali, au Tchad, au Burkina Faso. Donc nous avons trouvé que avec cette alerte même dans les déclarations de Joe Biden, vous avez suivi, il a dit qu'ils ne sont pas, disons, les États-Unis ne sont pas d'accord avec la prise du pouvoir à travers les armes. Donc, d'autant plus que les États-Unis manifestent leur volonté à pouvoir appeler nos dirigeants à ne pas, disons, se vanter ou à se mener à prendre le pouvoir par les armes, nous avons trouvé peut-être que cela peut arriver à toucher la conscience de nos dirigeants qui doivent passer par les voies démocratiques, qui sont les élections, ou alors, qu'est-ce que je peux dire encore une fois, autre chose, donc là, disons, les référendums, voilà ce que j'allais dire. Donc si jamais les présidents africains qui ont participé à ces sommets auront à appliquer, je dirais, ce genre de voies démocratiques, je pense qu'on n'aura pas, d'insécurité dans nos pays. Ouais, par exemple, dans les Maghreb ou dans les Sahel, où on note des attaques des djihadistes, tout ça pourquoi? Parce que les gens veulent avoir le pouvoir tout simplement par des armes.
Voilà. Merci. Madame Diane Kasongo. Le secrétaire d'État américain espère que le Rwanda va user de son influence afin d'encourager le M23 à se retirer du territoire congolais. Et à votre avis, que peut attendre la RDC de ce sommet en ce qui concerne le processus de paix dans sa partie orientale?
Voilà, les attentes de la République démocratique du Congo sont connues, hein. C'est de voir les États-Unis d'Amérique renforcer les sanctions contre le Rwanda afin de trouver la solution à la guerre dans la partie est du Congo. Mais il faut dire que ce n'est pas le premier sommet auquel prend part la République démocratique du Congo. Il faudrait que la communauté internationale aussi joue vraiment son rôle dans cette crise. Plusieurs fois, elle a été indexée et on n'a pas senti sa détermination face au M23 et au Rwanda.
Monsieur Cyril Kileba, avant les États-Unis, c'était la Chine et la Russie aussi s'apprêterait à réunir les dirigeants africains. Ne sommes-nous pas là en train d'assister à une situation où l'Afrique pourrait être divisée selon les influences des grandes puissances, comme c'était la configuration pendant la guerre froide?
Mais bien sûr, je crois que si l'Afrique va de sommet en sommet, espérant se faire valoir, je crois que in fine, elle s'en sortira bredouille. Il suffit pas d'aller un peu comme, excusez-moi les termes, un peu comme une prostituée qui passe de festin en festin, espérant faire le maximum de réserves. Non. Et il y a dans le relation entre les États, il y a les intérêts. et chacun doit pouvoir, doit savoir défendre ses intérêts et les défendre de la meilleure façon qui soit. Mais si on y, si l'Afrique va à ses sommets avec l'intention d'aller recevoir la charité, je crois que elle passera encore 60 ans comme elle a passé les 60 premières années de son indépendance aujourd'hui.
Et à votre avis, que doivent faire les dirigeants africains pour ne pas permettre à leur continent d'être utilisé et comme champ de bataille de ces grandes puissances, hein? On a vécu ça pendant la guerre froide.
Mais écoutez, ce que doivent faire les dirigeants africains, c'est de se montrer d'abord responsables, ne pas faire comme ils font aujourd'hui. J'y serais peut-être un peu fort, se présenter comme des valets. Non, ils doivent se montrer responsables, ils doivent se montrer déterminés et effectivement indépendants et défendre leur pays, défendre leur continent en posant à la table de vraies questions pour obtenir de vraies réponses. Pas de questions suggestives qui font d'eux des petits mendiants.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à Madame Diane Kassongo, Monsieur Cyril Kileba et Monsieur Ribin Lukumbuka. Merci aussi à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et Christian Omombo DJ Dadi sous la supervision d'Alex Essomé, Martès Oujangwe et Étienne Rougeri. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Malou de Tchalamwana. C'est une façon pour nous, n'est-ce pas, de rendre hommage à cette grande dame de la musique congolaise qui vient de nous quitter. Et on se retrouve le samedi prochain.
Maluka umaka. we musonga nyimani nalu abujane abulwata nalu amasanga nimakenge nalu akubika nekulala kwetu akwata abalijini bana babu akwata abalumeni bakashe akwata abalijini bafele nalu akwata bakuba matuma yoyoyo ngemai nabila Alua wele mchalu kamu Bantu pamwele kipu